Le Congrès des entreprises publiques locales 2021. Innover, investir, réinventer avec les EPL. Les 13 et 14 octobre 2021 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Immo et Radio Territoria. Merci d'être avec nous depuis ce matin. On est toujours en direct du Congrès EPL, entreprises publiques locales. J'ai la joie et le plaisir d'être non pas avec un, mais deux invités, puisque nous allons aborder une table ronde autour de la requalification des quartiers. Avec moi, pour commencer, Vincent Bougamont, directeur général chez la Fabrique des quartiers. Bonjour.
Bonjour.
Et à votre gauche, Benoît Gandin, général In-City Bordeaux Métropole Territoire. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous deux. Merci de nous faire l'honneur de passer sur notre plateau pour parler, comme je l'ai dit, de cette volonté forte de réhabiliter les quartiers. C'est un enjeu majeur finalement pour beaucoup d'acteurs, y compris les EPL. On va commencer par une question très simple. De par votre expertise terrain respective, quel état des lieux vous faites finalement de l'aménagement des territoires à ce jour en France? Qui commence?
Moi, je veux bien effectivement commencer. Alors, sur la question effectivement de l'expertise, de l'état des lieux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement des déséquilibres majeurs sur les territoires. L'État cherche à réguler ces déséquilibres avec un certain nombre d'appels à projets. On l'a vu avec Cœur de Ville, on l'a vu avec les ORT, les opérations également de revitalisation, on les a vus avec les petites villes de demain, etc. Mais structurellement parlant, ce territoire, je vais employer un terme un peu fort, est quand même fracturé. Les métropoles ont le monopole des sujets économiques, des questions du logement, etc. Et les territoires qu'on va appeler secondaires, les villes moyennes, les petites villes, souffrent énormément de ces situations. Donc il y a, je crois, une urgence, on l'a bien vu avec les différents mouvements sociaux, il y a une urgence à intervenir sur ces territoires de périphérie, et le terme n'est pas péjoratif, pour retrouver effectivement un équilibre que d'autres pays ont su le travailler. L'Italie a su le travailler, l'Espagne a su le travailler, l'Allemagne a su le travailler. Il manque pas grand-chose pour que la France rattrape son retard sur ces questions-là. Il y a une volonté. Maintenant, il faut effectivement prendre les choses en main et pouvoir agir sur ces questions-là.
Vincent Bougamont, c'est un pessimisme que vous partagez ?
Oui, moi je partage l'analyse de Benoît. Et moi, j'exprimerais différemment. Je dirais qu'on a vraiment besoin d'une politique d'aménagement du territoire qui donne leur juste place aux métropoles. Elles sont des locomotives de développement, mais aussi à tout le tissu intermédiaire de petites et de moyennes communes qui maillent le territoire. Et on a vu qu'avec le Covid, enfin, cette espèce d'échec ou de difficulté pour des gens qui habitent à 30, 40, 50, 100 kilomètres de venir travailler sur leur lieu de travail habituel, et la nécessité pour moi de redévelopper à la fois des liens de proximité très forts avec des modes de déplacement doux et collectifs qui fonctionnent bien, et aussi une qualité résidentielle qui permette évidemment de vivre, mais aussi de travailler et de développer d'autres choses. Donc il y a peut-être une opportunité, le Covid, il nous dit peut-être qu'il y a là une opportunité formidable à redévelopper une vraie politique d'aménagement de territoire qui soit équilibrée entre grandes métropoles et puis communes plus périphériques.
D'un point de vue opérationnel, à quoi ressemblent vos missions respectives aujourd'hui ?
On va peut-être parler des missions qu'on a en commun, c'est-à-dire qu'on a cette particularité à In-City Bordeaux et à la Fabrique des quartiers à Lille de travailler sur l'habitat ancien dégradé, les services de proximité, avec une batterie d'outils et de projets qui ont cette particularité de travailler sur des choses très petites, très... dans la ville existante, dans le renouvellement urbain, avec des outils particuliers qui sont pas tout à fait ceux de l'aménagement, qui sont d'autres outils, dans des politiques qui touchent à la fois le logement, les activités, le social, l'urbain, l'humain, et c'est à la fois la complexité et la richesse de nos missions.
Benoît Gandin, on va mettre les pieds dans le plat, s'agissant du sujet des effondrements d'immeubles, c'était le cas justement à Bordeaux, comme on l'évoquait lors de la préparation de cette interview. À quoi ressemble aujourd'hui une communication de crise dans ce genre de situation ?
Peut-être, avant d'aborder le sujet, ça reste traumatisant, mais ça révèle aussi quand même nos modes d'action et nos modes de faire. Vincent l'a très bien dit, on travaille sur une ville habitée. C'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des champs de patates. On travaille sur une ville habitée, sur une ville constituée, donc qui a ses particularités, qui a son bâti, qui a son patrimoine, qui a ses fragilités aussi, et c'est extrêmement important. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans notre actualité ? On a eu l'occasion, quand on a préparé cet entretien en juin, nous avons deux immeubles qui se sont effondrés dans le cœur de ville de Bordeaux. Une semaine plus tard, deux autres immeubles s'effondraient, pas ceux d'Incité bien évidemment, mais un immeuble, dans le deuxième effondrement, un immeuble pour lequel nous avions également une action, puisque c'est un immeuble que nous avions, ce qu'on dit dans notre jargon, recyclé, c'est-à-dire revendu à un opérateur. Bon, gestion de crise extrêmement forte sur l'effondrement de cet immeuble en juin. La première chose qui est importante, c'est la prise de décision. C'est-à-dire que, en fait, cet effondrement, même s'il a été soudain, nous l'avions anticipé. C'est-à-dire que nous avions perçu des fragilités sur ces immeubles. Je reviendrai sur la façon dont sont constituées nos équipes. Je pense que Vincent a à peu près les mêmes structurations, mais nous surveillons nos immeubles, etc. Ils sont extrêmement suivis. Nous avons une batterie de bureaux, de bureaux d'études, de bureaux de structure qui sont là pour contrôler aussi les immeubles. Donc, une fragilité que l'on a constatée. Cette fragilité nous a amené à solliciter la ville de Bordeaux pour prendre un arrêté, ce qu'on appelait à l'époque encore un arrêté de péril, ce qui nous a permis surtout d'évacuer le quartier. Et c'est là où j'en reviens à la première décision, c'est de se dire est-ce qu'il y a ou pas un risque ? Donc on a mesuré ce risque, on prend une décision, on fait évacuer le quartier. Une semaine après, l'immeuble s'effondrait. Pas de blessés, bien évidemment, puisque le quartier avait été évacué. Donc cellule de crise, ça veut dire effectivement une structure extrêmement resserrée, pas plus de 5-6 personnes à traiter le sujet sur toutes ces dimensions techniques, financière, sociale, qui est la première dimension extrêmement forte, parce qu'il y a une cellule psychologique à mettre en place. Des gens voient leur appartement disparaître dans un effondrement, donc il faut les accompagner, il faut les reloger. Il faut effectivement reloger 30 ménages occupants sur l'îlot. Et puis ensuite, vient la phase, j'allais dire, plus classique, technique, de confortement, de reprise des ouvrages, les phases financières, de discussion avec les assurances, qui est un vrai sujet aujourd'hui dans les interventions dans les centres anciens, puisque c'est un sujet aussi que le monde de l'assurance n'appréhende pas. Voilà. Ce que je retiendrai, moi, de cette question-là, c'est d'abord, effectivement, la prise de décision, qui est comme toute direction, quelle qu'elle soit, lorsqu'on est confronté à cette décision, de la prendre ou de ne pas la prendre, et quelle est la bonne décision. Voilà. Et ensuite, de ne pas faire le choix de disperser les sujets, mais d'arriver effectivement sur une équipe resserrée, concentrée, qui, j'allais dire, travaille dans l'intérêt de ce drame, puisqu'il s'agit d'un drame. Voilà. Alors, après, on est dans le temps. Hein. L'effondrement s'est passé en juin. Je pense qu'il y aura... On a prévu à peu près une année pour traiter totalement le sujet, c'est-à-dire jusqu'à le confortement définitif des biens.
Alors, effectivement, le problème a très bien été solutionné. On ne peut que s'en féliciter. Mais malgré tout, est-ce que vous pensez que, finalement, les leçons ont été tirées par les différentes parties prenantes, malgré tout ?
Alors, sur Bordeaux, il y a une vraie... Il y a une alerte qui est donnée aujourd'hui par les collectivités, enfin en tout cas par celles qui ont autorité sur la chose. Je pense notamment à la ville, puisque ça relève principalement de la police du maire, hein, au sujet des périls notamment, des arrêtés de mise en sécurité. Il y a effectivement une prise de conscience. Donc à la suite de cet effondrement et du second, on a vu fleurir des arrêtés en veux-tu, en voilà. Voilà. J'allais dire, ça a été le contrebalance du sujet, c'est-à-dire qu'on a vu une trentaine d'arrêtés pris sur Bordeaux. Et une psychose qui s'installait en disant « je vois une fissure, ça fait 10 ans qu'elle est là, mais je suis inquiet ». Donc les habitants, les occupants ont aussi été extrêmement inquiets. Ce que ça a révélé, et c'est là où effectivement par rapport à la prise de conscience, une défaillance sur les copropriétés fortes, les copropriétés anciennes dégradées, défaillance des syndics, défaillance effectivement des syndics, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Et là, il y a une action forte qui est engagée auprès de ces professionnels, notamment sur les syndics professionnels, pour les alerter, d'une part, de leur responsabilité et de la nécessité d'entretenir ces immeubles. Donc là, on est vraiment au début d'un processus qui va durer un certain temps. D'ailleurs, il y a, j'allais dire, des contacts assez rapprochés entre différentes collectivités. Je pense notamment à Marseille, hein, qui est venu sur Bordeaux pour essayer aussi de capitaliser sur les expériences, y compris de Marseille, pour traiter ces sujets.
Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi reconnaître que le recyclage d'un immeuble, ça représente aussi un coût, finalement. combien ça peut représenter ?
C'est une vraie question, puis c'est pas une, et puis c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse, parce que c'est une question qui dépend de tellement de paramètres différents. Parce que dans le coût de production d'un logement en réhabilitation, il y a son prix d'achat, déjà. Le prix d'achat sur un territoire comme celui de la métropole, il peut varier du simple au triple selon que l'on est dans telle ville ou dans tel autre quartier. Donc il y a un vrai point.
Alors je vais reformuler ma question. Est-ce que les territoires ou les communes peuvent supporter le recyclage de l'intégralité de le parc immobilier, même si je connais déjà un petit peu la réponse?
Ça a un coût et c'est un coût qui est rarement équilibré en recettes et en dépenses par les dépenses, ou pas équilibré par les recettes de commercialisation et d'exploitation. Parce qu'encore une fois, quand on additionne les coûts d'acquisition de foncier, de bâtiments en très mauvais état et qu'on paye toujours trop cher, et c'est un vrai sujet, quand on additionne les coûts de maîtrise d'œuvre, de travaux et de maîtrise d'ouvrage, et pour remettre aujourd'hui un logement dans des conditions correctes sur le marché, on a des coûts en réhabilitation qui sont sensiblement plus élevés que dans le neuf. On a par exemple des coûts de curage, des coûts de désamiantage, des coûts de dépollution qui viennent s'additionner et qui font que les budgets sont particulièrement élevés. On a des coûts de maîtrise d'ouvrage élevés aussi parce qu'on travaille sur des petits objets et que tout ce qui est maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, elle est en poids financier disproportionné par rapport à l'objet qu'on produit, parce que c'est un petit objet qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de moyens. Voilà. Puis après, c'est une question qui est complètement liée au prix où on va pouvoir revendre l'objet. Mmh. Alors si on le revend pour faire du logement libre à Lille, on va toujours trouver un prix d'équilibre entre ce que ça a coûté et le prix de vente. Si on veut produire du logement locatif social ou si on veut produire du logement locatif, du logement pour l'accession sociale à la propriété à 2 100 € le mètre carré, pour des recherches de mixité sociale dans les quartiers, eh ben on arrive à des déséquilibres et on arrive à produire du déficit. C'est pour ça que c'est une question qui est un peu tordue, parce que elle est à la fois dépendante du coût d'acquisition, du marché dans lequel on se trouve et du type de produit que l'on va fabriquer. Nous aujourd'hui, sur des territoires qui sont en déprise, on achète des choses pas chères, mais elles coûtent cher à réhabiliter et on ne peut pas les vendre au prix de revient de ce qu'elles nous coûtent. On a développé des stratégies, Tourcoing centre-ville, où on garde en propriété les immeubles, on les exploite pendant une dizaine d'années, ce qui fait qu'on a des recettes d'exploitation qui viennent combler le déficit. Et puis, comme on est sur des démarches intégrées à l'échelle de centre-ville ou de quartier, on peut espérer que 10 ans plus tard, on va les revendre dans des conditions de marché qui seront meilleures et que donc, on pourra sensiblement rééquilibrer l'écart qu'il y a entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte, entre guillemets.
Moi, si vous me permettez d'illustrer un peu les propos de Vincent, aujourd'hui, sur une concession d'aménagement, celle de Bordeaux, si on prend l'exemple de Bordeaux, la concession, c'est 60 millions, pour faire simple. 60 millions d'euros, c'est le bilan de cette concession. Sur ces 60 millions d'euros, on a à peu près, on va dire, 30% qui correspond au déficit du recyclage. 30%, c'est à peu près 20-21 millions d'euros qui correspond effectivement à l'écart qu'on peut avoir entre les dépenses, c'est-à-dire l'acquisition du terrain plus les travaux qu'on est amené à faire. Et effectivement, on a une phase importante, une part importante de travaux de sécurisation, etc. Et en face, les recettes, c'est-à-dire à quel prix on vend ce qu'on a acheté. Mais là, on est en secteur tendu. Donc, deuxième exemple, si on descend d'une échelle, sur la production de logement social, on va acheter un immeuble à peu près 2 500 à 3 000 € le mètre carré, on va le revendre à un bailleur social à 400 € le mètre carré pour produire du logement social. Donc tout ça, effectivement, constitue du déficit de recyclage. Et la facture, in fine, elle est importante. Par contre, elle répond bien à un objectif qui est fixé par les collectivités, de produire du logement social, du locatif social public et privé, mais elle a un coût.
Alors, on saisit effectivement l'urgence et la multiplicité des chantiers qui sont présents et nécessaires sur l'intégralité des territoires. Est-ce que les collectivités financent-elles suffisamment les ingénieries ? Est-ce qu'elles sont... Non, je recommence. Je l'ai mal formulé. Du coup, financent-elles suffisamment les ingénieries ? Non.
Pour répondre aux... L'ingénierie est-elle suffisamment déployée
Alors, on comprend finalement l'urgence et la multiplicité des chantiers sur les territoires. Les collectivités financent-elles suffisamment les ingénieries pour répondre aux injonctions de l'État ?
La question de l'ingénierie, elle est essentielle, parce qu'effectivement, on est sur des sujets extrêmement techniques. Alors, on va peut-être dire qu'on s'est accaparé ces questions techniques et qu'on les a encore un peu plus technicisée. Dans une concession d'aménagement aujourd'hui, l'ingénierie représente à peu près entre, on va dire, 15 et 20% du coût d'une opération. C'est important, mais c'est vrai que c'est une équipe complète qu'il faut déployer. J'évoquais la question de l'accompagnement social, la question effectivement technique, de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre éventuellement, toute la gestion locative, ce qu'on va appeler la gestion intercalaire, etc., l'aspect financier, juridique, bien évidemment. Donc c'est une ingénierie forte, très large, qu'il faut déployer. Les collectivités ne le perçoivent pas forcément, et ne sont peut-être pas forcément sensibilisés à l'ensemble des dispositifs qu'il faut mettre en œuvre pour travailler sur le renouvellement urbain dans les quartiers anciens. Et peut-être pour terminer sur cette question, je dirais qu'elle est aussi insuffisamment financée par les partenaires des collectivités. On finance aujourd'hui les chefs de projet qui sont attachés aux collectivités, notamment dans les dispositifs d'opérations d'amélioration de l'habitat. Mais par contre, on ne vient pas ou très peu financer l'ingénierie déployée, notamment dans les opérations d'aménagement. Et c'est un vrai sujet parce que c'est un engagement qui est pris sur le long terme. On est quelquefois au-delà de 10 ans. C'est un investissement conséquent pour les collectivités.
Et s'agissant du sujet brûlant des logements vacants, comment est appréhendée cette question de votre côté, Vincent ?
Alors les logements vacants, quelques chiffres. Sur la métropole européenne de Lille, 40 000 logements vacants identifiés, dont 30 000 logements privés, 10 000 logements dans le patrimoine des bailleurs sociaux. Sur les 30 000 logements vacants privés, 10 000 en situation de blocage, c'est-à-dire vacants depuis plus de 5 ans. Et en situation de dégradation assez avancée. La métropole a engagé une réflexion très en amont il y a maintenant plusieurs années. Et on a fait un premier travail de compréhension de ce que c'était que ce patrimoine. Et aujourd'hui, on est sur des dispositifs assez originaux de remobilisation des propriétaires, mais aussi sur des procédures qui nous permettent d'acheter les biens. Alors, acheter des biens qui sont dispersés entre guillemets sur 50 communes du territoire, hein, donc à peu près 600 logements sur 50 communes. Et le boulot, c'est diagnostiquer les blocages, et c'est des blocages fonciers, débloquer, acheter si nécessaire avec le concours de l'établissement public foncier, recycler, les remettre sur le marché. Donc des problématiques qui sont ambitieuses, assez coûteuses là aussi en ingénierie parce que c'est du foncier, c'est du droit, c'est des procédures qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et qui sont très particulières et je crois assez exemplaires au niveau national.
Merci à l'un et à l'autre pour vos interventions respectives.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Immo et Radio Territoria. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres interviews.
Le Congrès des entreprises publiques locales 2021. Innover, investir, réinventer avec les EPL. Les 13 et 14 octobre 2021 sur Radio Immo et Radio Territoria.